Vous aimez mieux les disques que la radio?
Mais c'est du podcast! Du podcast!
Oui, mais très bien, je vois très bien.
Tous les invités ont répondu présent.
C'est la bonté même, la générosité.
Nous sommes arrivés à un carrefour historique.
Nous sommes en veine de générosité tous les deux. Qu'est-ce que cela signifie?
Le Podcaston, c'est le premier rassemblement caritatif des podcasts francophones propulsés par Altrui. Nous vous remercions de soutenir les associations qui seront mises en avant pendant cet événement.
On se retrouve dans quelques instants pour un épisode un peu spécial. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode un peu spécial puisque nous sommes en pleine semaine du Podcaston. Pendant 7 jours, du 25 mars au 31 mars, plus de 300 animateurs et animatrices de podcasts se mobilisent pour mettre en lumière le monde associatif et ses valeurs. Comment? Eh bien, en dédiant un épisode de podcast à l'association de leur choix. Et je trouve que c'est vraiment une très belle mobilisation et je suis vraiment ravie que mon podcast Clem et Sereine y participe. Donc à cette occasion, je suis ravie d'enregistrer cet épisode de podcast mettant en avant une association qui me tient particulièrement à cœur, qui s'appelle les Blues Roses, puisque elle fait écho à mon histoire personnelle. Je vais vous en reparler un petit peu plus loin, un petit peu plus en détail tout à l'heure. Donc les Blues Roses, c'est une association qui existe depuis 80 ans. Il y a plus de 4400 bénévoles qui interviennent principalement auprès des enfants et des adultes hospitalisés et également auprès des personnes âgées en EHPAD. En fait, c'est pour venir apporter un peu de soleil, un peu de bonheur, un peu de sourire dans un quotidien de solitude et de soins. Donc ils viennent écouter, réconforter, distraire les malades. Ils viennent apporter de la joie. Ce sont des petits rayons de soleil. Voilà. et c'est une association qui porte vraiment de belles valeurs. Des valeurs d'engagement, des valeurs d'écoute, de disponibilité, de partage. En fait, ils s'engagent auprès des établissements, auprès des malades, auprès des résidents. On peut compter sur eux. Ils sont à l'écoute. Ils sont vraiment attentifs aux besoins des bénéficiaires et aux besoins des établissements. Ils sont dans le partage avec le don de leur temps, de leurs compétences et la solidarité qu'il y a aussi entre les bénévoles au sein des comités. Et la valeur de disponibilité qui est aussi vraiment très importante puisque les bénévoles répondent toujours présents au moins minimum une fois par semaine. Et comme toute association, je trouve que c'est hyper important de pouvoir les soutenir à travers le don, à travers même l'engagement, le fait de devenir bénévole. On est vraiment tous concernés. On peut vraiment être tous concernés par cette association. Nous pouvons tous être impactés un jour, nous pouvons tous nous retrouver à l'hôpital, nous-mêmes ou nos proches, ou avoir des proches qui se retrouvent en EHPAD. Et croyez-moi, un peu de bonheur, de sourire, de réconfort, ça fait toujours du bien dans un quotidien souvent difficile. C'est jamais anodin de se retrouver à l'hôpital, c'est jamais anodin de se retrouver à l'EHPAD. Donc c'est vraiment important de pouvoir soutenir cette association et le travail qu'ils font au quotidien pour venir égayer la vie de ces personnes. Pourquoi cette association me touche et pourquoi j'avais envie d'en parler aujourd'hui? Parce qu'elle vient faire écho à deux parties de ma vie. Je vais vous parler à cœur ouvert, je le fais souvent, je me confie souvent auprès de vous. J'ai passé une bonne partie de ma jeunesse dans les hôpitaux, alors pas de façon continue, mais on va plutôt dire de séjour après séjour, depuis ma naissance, puisque je suis née avec les pieds beaux, Je ne sais pas si vous savez ce que c'est comme pathologie, on va dire. En gros, je suis née avec les pieds vers l'intérieur. Voilà, pour faire assez court, clair et précis. Et donc du coup, j'ai dû subir tout au long de mon enfance, de mon adolescence, plusieurs opérations afin de pouvoir redresser mes pieds, voilà. D'avoir à peu près des pieds comme tout le monde, même si en souvenir aujourd'hui, j'ai de jolies cicatrices au niveau des pieds, voilà. Mais en tout cas, j'ai été confrontée à passer du temps dans les hôpitaux, et c'est pas toujours facile. J'ai pas énormément de souvenirs de cette période-là. Alors, je me souviens quand même un petit peu, alors pas quand j'étais toute petite. En fait, les souvenirs que j'ai quand j'étais vraiment petite, ce sont des photos sur les albums photos où on voit très distinctement, en fait, mes deux pieds qui sont plâtrés et qui sont reliés par une barre en métal pour justement pouvoir les maintenir droits. Donc ça, on va dire qu'avant mon adolescence, les souvenirs que j'ai, ce sont des souvenirs sur albums photos. Et aussi des souvenirs qu'on m'a racontés, que mes proches m'ont racontés. J'ai eu beaucoup de kinés, j'ai eu beaucoup de soins. J'ai eu globalement un quotidien médicalisé. Par contre, j'ai quand même beaucoup plus de souvenirs dans ma période adolescence, où là, je me suis retrouvée à subir les dernières grosses opérations concernant mes pieds. J'étais suivie tous les ans. En fait, depuis ma naissance, j'étais suivie tous les ans à l'hôpital au CHU de Rouen. Et aux alentours de 14-15 ans de mémoire, j'ai dû subir mes dernières opérations. Et comme c'était sur les deux pieds, puisque les deux pieds étaient concernés par la maladie depuis ma naissance, j'avais fait le choix de faire les deux en même temps, ce qui impliquait d'ailleurs de me retrouver en fauteuil roulant. Mais c'était aussi pour éviter de me retrouver à faire deux séjours à l'hôpital, une année sur l'autre, avec des béquilles, des plâtres et de la rééducation, tout fois deux en fait. Donc j'avais pris la décision de faire tout en même temps, de me retrouver en fauteuil roulant. Et là, vraiment, j'ai souffert. J'ai un peu souffert quand même, alors pas énormément non plus par rapport à d'autres pathologies, mais bon, sur le moment, j'ai souffert un peu quand même. J'ai pu compter sur le soutien de mes proches et tout ça. Mais ce que je me souviens, en tout cas, j'ai vraiment ce souvenir-là, c'est que je me suis jamais sentie seule. Et je me souviens d'avoir pu faire des activités manuelles, d'avoir pu m'évader au milieu des moments difficiles que j'ai pu traverser, avec l'aide justement de personnes qui étaient là pour ça, comme les blouses roses. Alors j'ai pas souvenir d'avoir vu une blouse rose, vraiment, je suis honnête avec vous, je vais pas vous mentir et mes souvenirs sont assez flous, mais en tout cas, j'ai vraiment ce souvenir d'avoir pu faire des activités, d'avoir pu être écoutée, d'avoir pu bénéficier de tout ça. Et vraiment, oui, à travers tous les moments difficiles que j'ai pu rencontrer lors de mon parcours de soins, ça m'a vraiment fait du bien. Et encore aujourd'hui, je m'en souviens de ça. Et il faut savoir aussi que ça aide à la guérison. Je suis persuadée, en tout cas c'est ma conviction, que nos émotions, nos ressentis, la façon dont on se sent, ça aide à notre guérison. Du coup, je voulais en profiter pour vous expliquer un petit peu les actions des bénévoles des Blouses Roses au niveau des hôpitaux. Il faut garder à l'esprit que le public est très grand, puisque ça va des tout petits aux plus grands. Et vraiment, ils adaptent leurs actions en fonction du public qu'ils rencontrent. C'est-à-dire, ça peut aller du maternage et des comptines pour les plus petits, des échanges et des jeux adaptés pour les plus grands. Ils proposent des animations, des jeux, des activités ludiques, créatives, musicales. C'est vraiment hyper varié et leur action est vraiment hyper importante. Je répète, j'insiste, voilà. De toute façon, vous commencez à avoir l'habitude, j'aborde toujours les sujets avec passion et enthousiasme, sinon je n'en parlerai même pas sur ce podcast en fait. La deuxième partie par laquelle je me sens concernée et je me sens en lien avec cette association, Ça concerne mes grands-parents. Pour les personnes qui me découvrent à travers cet épisode, qui ne me connaissent pas, qui ne connaissent pas mon histoire, qui... Voilà. Il faut savoir, pour essayer de résumer ça assez résumé, on va dire. Je m'occupe de mes grands-parents... Alors déjà, j'ai une relation avec mes grands-parents maternels depuis... qui a toujours été hyper fusionnelle, hyper importante, hyper présente dans ma vie. Donc j'ai toujours été là. Mais c'est vrai que depuis 2 ans, 3 ans, j'ai pas trop calculé. Enfin, ça a commencé à s'accentuer un petit peu avec l'arrivée du Covid, où j'allais faire leurs courses, où je les ai protégés pour ne pas qu'ils partent à cause du Covid. Voilà, clairement. Et donc ça a commencé avec le Covid, et à la sortie du Covid, à la sortie de toutes les restrictions, mes grands-parents ont commencé chacun à avoir des soucis de santé. Donc il a fallu apporter des aides à domicile pour leur permettre de rester maintenus à leur domicile. Dans un premier temps, c'était hyper important pour eux, c'était hyper important pour moi de répondre à leurs envies, à leurs besoins. Et puis l'année dernière, ça s'est grandement dégradé au niveau de l'état notamment de mon grand-père. Et il faut savoir que ma grand-mère ne peut pas rester toute seule. Déjà parce qu'elle a des troubles cognitifs qui ont été diagnostiqués il y a 1 an et demi, je crois, de mémoire. Je suis pas très bonne dans les dates, hein, faut pas m'en vouloir. Et aussi parce que elle a peur d'être toute seule. Elle ne se sent pas de rester seule chez elle. Et comme à partir de mai-juin 2023, mon grand-père a enchaîné les séjours dans les hôpitaux, il est devenu hyper compliqué de maintenir ma grand-mère au domicile, à leur domicile, parce que je me rappelle très bien de cette période comme si c'était hier, parce que j'en ai bavé, clairement, je m'occupe de mes grands-parents toute seule. Donc c'est difficile. D'ailleurs, je fais une parenthèse, les personnes qui ne sont pas en train de s'occuper pleinement d'un proche âgé ne savent pas ce que c'est. Ce n'est pas un jugement de ma part, c'est un fait. Il faut le vivre pour savoir la charge que c'est de s'occuper pleinement de personnes âgées. Pourquoi c'était difficile de la maintenir à domicile? Parce qu'elle avait aussi besoin de présence la nuit. Il lui arrivait de chuter la nuit, donc elle avait un lit médicalisé et on mettait la barrière. Mais je me voyais pas l'enfermer dans son lit le soir. Moi, je pouvais pas être forcément là le matin. Il faut quand même remettre les choses dans le contexte que j'ai un enfant, que j'habitais à 1 heure de chez eux, que pour aller les voir, j'avais 1 heure de route à faire. Alors ça, c'est pas le problème parce que je l'ai fait. Mais si je fermais la barrière à ma grand-mère la nuit, il fallait potentiellement que je revienne le soir, que je fasse 1 heure de route le matin. Elle restait jusqu'à 9 heures dans son lit. Enfin, c'était pas humain, c'était pas possible. Ou jusqu'à l'heure que l'aide à domicile arrivait le matin. Il faut quand même savoir la réalité des choses, c'est que une aide à domicile, ça coûte de l'argent, qu'une aide à domicile 24h sur 24, ça coûte beaucoup d'argent. Et je me suis retrouvée confrontée à tout ça, c'est-à-dire que j'ai cherché clairement un EHPAD. Et pourquoi je dis que les gens ne peuvent pas comprendre, c'est que ça ne m'a pas fait plaisir de chercher un EHPAD, que j'aurais préféré que mes grands-parents restent chez eux, mais c'était la réalité. Et j'avais peur, oui, j'avais peur de placer ma grand-mère en EHPAD, parce que j'ai côtoyé des EHPAD avec mes autres grands-parents où c'était pas folichon, hein, c'était pas glorieux, c'était pas gai, c'était triste. Et du coup, ça m'a fait peur, mais j'avais pas le choix, en fait, parce que il faut quand même savoir, je vous dis vraiment tout, c'est que en attendant de trouver une place en EHPAD, parce qu'une place en EHPAD, ça ne se trouve pas en un claquement de doigts, j'ai mis en place des aides à domicile 24h sur 24. Et ça a coûté 11 000 euros le mois à mes grands-parents. 11 000 euros le mois. Pour avoir des aides à domicile présentes quasiment 24 heures sur 24, parce qu'il y avait encore des trous dans le planning. Vous voyez? 11 000 euros le mois. Donc, tout ça pour vous dire pourquoi je vous pose tout ce contexte-là, c'est que j'ai réussi à trouver des établissements très corrects pour mes grands-parents en EHPAD. Mon grand-père a rejoint ma grand-mère en EHPAD après ses nombreuses hospitalisations. Donc ma grand-mère est rentrée en juin et mon grand-père est arrivé en EHPAD en octobre. Évidemment que ça a été hyper difficile pour eux de d'accepter en fait de rentrer en établissement, de perdre un petit peu de leur autonomie entre guillemets, même si l'EHPAD c'est pas une prison, je le rappelle, ils sont libres de faire ce qu'ils ont envie, c'est juste un logement médicalisé et avec des personnes qui sont là pour répondre à leurs besoins. Donc j'ai eu la chance de pouvoir les mettre dans de bons établissements, de toute façon c'était non négociable. On a pris du temps, on a pris de l'énergie avec mon conjoint pour vraiment pouvoir les mettre dans de bons établissements. On s'est démené pour eux, voilà. Mais faut aussi rappeler que bah il y a un réel coût financier et que ça peut pas non plus être que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir être dans des établissements convenables. Et puis après aussi on choisit pas forcément tout le temps parce que encore une fois il y a des délais, il y a un manque de place, etc. Donc voilà. Et dans chaque établissement, alors les Blues Roses ne sont pas présentes forcément sur les établissements où sont mes grands-parents, mais ils sont présents sur plein d'établissements en France. Mais en tout cas, dans les établissements où sont mes grands-parents, il y a un programme d'animation, il y a un programme d'activité, il y a des personnes qui sont là pour leur amener du baume au cœur, de la vie. Parce que c'est dur, en fait. Je vois les personnes qui sont isolées. Je vois les personnes qui n'ont pas la chance que mes grands-parents ont de pouvoir avoir leur famille qui vient leur rendre visite. Parce que parfois, bah, ils ont plus de famille ou parfois... La famille habite très loin, chacun a ses contraintes, faut pas faire des raccourcis en disant « Ah bah, leur famille les laisse de côté, et etc. » Enfin, on sait pas la vie des gens, et croyez-moi que pour côtoyer tout ça depuis l'année dernière, il y a des réalités qui malheureusement sont tristes et qui ne sont pas de la faute des familles aussi. Alors, c'est pas le cas de tout le monde, mais c'est la réalité des choses. Et en fait, c'est rassurant de savoir que il y a des personnes qui sont là pour mener des actions, comme les bénévoles des Blues Roses, des personnes qui sont là pour venir rendre visite, venir distraire, venir échanger, venir sourire, venir rire, apporter des activités musicales, des activités gourmandes, des activités manuelles, venir stimuler la mémoire, etc., etc. Et merci aux Blues Roses pour ça, et merci globalement à toutes les personnes qui font ça en fait, que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit dans les EHPAD. Le but c'est d'amener de la bonne humeur, de rompre la monotonie, de venir apporter du sourire, de venir apporter de la joie. Et c'est pour ça vraiment, vraiment, vraiment que ça me tenait à cœur aujourd'hui de venir présenter cette association qui se démènent pour pouvoir apporter tout ça aux personnes qui en ont besoin. Je vous encourage vraiment, encore une fois, à soutenir cette association. Je vais rentrer un petit peu plus en détail sur la façon de le faire. Bah déjà, tout simplement, ils ont besoin de fonds pour développer toutes les actions que je viens de vous citer. Mais aussi, ça leur permet de rendre visite à plus de personnes hospitalisées, à plus de personnes en EHPAD par rapport à ce qu'ils font déjà. Ça leur permet aussi de pouvoir recruter et de pouvoir former encore plus de bénévoles. Ça leur permet aussi de financer les différents projets, les différentes animations mises en place. Donc vraiment, vos dons sont hyper importants. Vous trouverez toutes les infos en description de cet épisode sur où faire votre don, etc., etc. Donc n'hésitez pas à regarder tout ça et aussi à vous rendre directement sur le site podcaston.org. Et vous pouvez aussi les aider en devenant bénévole et rejoindre vous-même le terrain. Ils recherchent aussi des bénévoles dans les différents comités de région. Devenir bénévole, c'est s'engager pour un an minimum. Il faut avoir minimum 18 ans aussi. C'est être disponible quelques heures par semaine et vous recevez une formation qui est obligatoire et qui est prise en charge par l'association. Une formation de qualité pour pouvoir après vous faire du bénévolat de qualité. Donc si ça peut vous intéresser de devenir bénévole pour cette association, pareil, tous les détails sont sur le site Les Blues Roses. Je vous remets vraiment tous les liens en description. Alors évidemment, je vous parle de contribution, que ce soit en termes de dons ou que ce soit en termes de bénévolat. Je vous balance pas ça sans essayer moi-même d'apporter ma pierre à l'édifice. Ça fait un petit moment, ça fait plusieurs années que je me dis j'aimerais vraiment être bénévole pour les Blues Roses. Et c'est quelque chose que j'envisage pour 2025, quand ma vie sera un peu moins chaotique et où vraiment je pourrais consacrer du temps de qualité pour cette association. Mais c'est vrai que je finirai, je le sais, par être bénévole de cette association. En tout cas, j'en ai grandement envie. J'en ai encore parlé à mon mari il y a pas longtemps. Je lui ai dit pour 2025, je pense qu'on aura pas mal avancé dans notre vie, qu'on aura réglé pas mal de choses qui nous prennent beaucoup de temps et que je pourrais enfin me rapprocher de l'association pour devenir bénévole, je l'espère, et pouvoir œuvrer et donner de mon temps à leur côté. Donc je vous en reparlerai en temps voulu. Et aussi, depuis l'année dernière, j'ai vu ça par une personne sur les réseaux sociaux qui disait qu'elle reversait chaque mois 1% de son chiffre d'affaires à une association de son choix. Et tout de suite, j'ai pensé aux Blues Roses. Tout de suite, je me suis dit, bah moi, avec ma toute petite entreprise, à mon échelle, j'ai aussi envie de pouvoir contribuer. Et donc du coup, j'ai décidé de reverser moi-même 1% de mon chiffre d'affaires au Blues Roses. Alors, j'ai pas eu encore l'occasion de le faire parce que j'ai pas eu le temps de pouvoir me consacrer à mon entreprise l'année dernière. Mais cette année, je sais que je vais avoir, j'ai beaucoup de clients et du coup, de chiffre d'affaires qui va rentrer dans mon entreprise et je compte reverser 1% chaque mois de mon chiffre d'affaires au Blues Roses pour vraiment pouvoir apporter ma contribution pour cette association. Cet épisode touche à sa fin. Ça a été vraiment un immense honneur pour moi de pouvoir mettre en lumière cette belle association, les Blues Roses. J'espère que vous aurez apprécié cet épisode et que vous n'hésiterez pas à soutenir l'association. Chaque don compte, du plus petit au plus grand. Encore une fois, toutes les infos sont en description. On compte vraiment sur vous. Je vous encourage également à diffuser tout ça autour de vous, mais aussi à visiter le site www.podcaston.org pour découvrir des centaines d'autres associations à travers d'autres super podcasts. Moi-même, j'ai commencé à en écouter et je pense que je vous referai une petite sélection, soit en story Instagram, soit en post Instagram sur les super épisodes que j'ai écoutés moi-même à l'occasion du podcaston. On se retrouve le 7 mai pour la saison 3 de ce podcast. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.